Bonsoir, comment allez-vous? Ah, vous êtes dans les embouteillages, mes pauvres chatons. C'est le moment quand on rentre où on se demande si on a bien fait de partir. Le moment où on se demande si on a bien fait de prendre cette route-là à cette heure-ci. Et puis, à moins d'être très sage, c'est le moment où on commence à accuser les autres. Si on n'avait pas attendu Laurence, on ne se serait pas retrouvé dans ces embouteillages à cette heure-ci. Si nous étions partis ce soir, comme je le préconisais, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est ça l'origine des embouteillages. Les Québécois disent congestion. Quoi qu'il en soit, que vous soyez au Québec ou bloqué aux portes de Paris ou Marseille, que vous soyez seul dans votre cuisine ou bien en train de marcher dans la nuit, les « j'aurais dû », au moins autant que la cigarette et le whisky, il faut arrêter. Allez, bonne année.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 7 ans. J'aimerais bien savoir comment on fait pour prévenir les bouchons sur la route. Au revoir.
Merci Marius pour ta question. Un peu lue, c'est une bonne technique. Elle a le mérite d'être claire, Christine Buisson. C'est votre métier finalement, vous, de prédire les bouchons sur la route.
Oui, bonjour Marius. Alors, la question que pose Marius, en fait, c'est prédire les bouchons. Donc, ça veut dire, la première question à laquelle il faut répondre, c'est qu'est-ce qu'un bouchon?
Eh oui.
Un bouchon, Marius, peut-être à 7h30 aujourd'hui, est lui-même dans un bouchon avec ses parents, c'est quand le conducteur de la voiture ne peut pas rouler à la vitesse à laquelle il voudrait rouler. Donc, ce phénomène, il vient du fait qu'il y a trop de voitures qui veulent passer à un endroit par rapport à la capacité de la voie à cet endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce qu'il y a trop de voitures et quelle est la capacité à cet endroit. Il faut répondre en fait à ces deux questions. Alors, si on cherche à savoir quand est-ce qu'il y aura trop de voitures, on peut supposer que ce qui se passe ce dimanche soir à 7h30 est assez semblable à ce qui s'est passé dimanche dernier à la même heure, au même endroit. Donc là, on fait simplement une prévision basée sur des statistiques. Donc on analyse tous les chiffres qu'on a recueillis pour savoir comment ça s'est passé la dernière fois et donc comment ça va se passer maintenant. C'est des recueils de données qui sont très massifs et qui sont faits par les gestionnaires des infrastructures, donc le ministère de l'écologie ou les collectivités territoriales. Ils sont faits avec des capteurs qui sont dans le sol et sur lesquels on passe.
Ah, et qui comptent ?
Oui, qui comptent. Qui comptent le nombre de véhicules qui passent et qui mesurent aussi la vitesse de ces véhicules.
Ah ouais.
Et donc, une fois qu'on a toutes ces données, on les met dans un outil statistique extrêmement performant qui nous permet de prévoir quel va être le comportement tel jour à telle heure. Après, si on veut savoir comment ça se passera, non pas quand l'infrastructure est la même que celle qu'elle était le dimanche d'avant, mais avec des travaux, là on est obligé de tenir compte du fait, Marius, que la demande est la même, mais l'offre, la capacité de la voie en ce point a été modifiée. Donc là on a besoin de modèles qui sont basés sur le phénomène d'écoulement, qui sont basés sur la mécanique des fluides.
Comme de l'eau dans un robinet.
Exactement, comme de l'eau dans une baignoire.
S'il y a du calcaire, ça coule moins vite.
Voilà.
Alors, je ne sais pas du tout, Christine Buisson, si vous avez à voir avec ces informations qu'on voit sur les panneaux du périphérique, par exemple, Porte d'Orléans, 22 minutes. Comment ils font pour dire ça?
Dans la chaussée des routes, il y a des capteurs qu'on appelle des boucles électromagnétiques qui mesurent le passage des véhicules. Donc, chaque fois qu'un véhicule passe, on dit 1, 2, 3. On compte les véhicules. Et puis, on peut aussi déterminer leur vitesse. Si on a assez de capteurs sur la voie, on peut avoir la vitesse tous les 500 mètres, par exemple. C'est ce qui se fait sur le boulevard périphérique.
Périph' de Paris.
Périphérique de Paris, oui. Mais c'est le cas sur la grande majorité des périphériques urbains. Et donc, comme ça, on arrive très facilement à calculer un temps de parcours. Et ce temps de parcours, on l'utilise pour l'afficher. Et ensuite, les usagers, eux, l'utilisent pour choisir leur itinéraire.
Et moi, je me dis, mais le mec, il a oublié de mettre son panneau à jour.
Ah,
ça se peut, ça?
Oui. Alors, la question de la confiance que les usagers ont dans l'information, c'est une question très importante, parce que l'information sur le temps de parcours, les gens qui mettent les panneaux sur les autoroutes l'utilisent pour informer les usagers, en particulier s'il y a une grosse catastrophe, un gros bouchon pas prévu. Donc, comme ça, on annonce un temps très élevé et on espère que les usagers vont changer d'itinéraire pour diminuer la demande sur ce bouchon, pour fluidifier le trafic. Et par contre, ça va reporter évidemment cette demande sur les autres itinéraires qui existent. Si les usagers n'ont pas confiance dans l'information qu'on leur donne, alors ils vont dire « Ah oui, on me dit 1h10 pour faire 10 km, je le crois pas, c'est jamais vrai, ce panneau dit toujours des bêtises ». Et donc, dans ce cas-là, on va rester sur la voie. Donc, les gens qui sont gestionnaires des infrastructures, qui sont chargés donc de faire ces affichages, ils veillent scrupuleusement à ce que les informations soient le plus exactes possible, de manière à ce que les usagers aient confiance dans ce qui est affiché et ce que ça soit utile collectivement pour l'ensemble des usagers en diminuant les bouchons.
Christine Buisson est directrice de recherche à l'IFSTAR. L'IFSTAR, c'est l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Rappelez-vous, c'est Christine Buisson qui nous avait expliqué pourquoi, quand on change de fil sans cesse, on ralentit le trafic. Quand on arrêtera de travailler le lendemain des jours de repos, disait Pierre Dac, on pourrait rajouter, quand on arrêtera de travailler le lendemain des jours de repos, il n'y aura plus d'encombrement. Quand les hommes sont allés sur la Lune, ils ont rencontré beaucoup de difficultés, certes, mais d'embouteillage, point.
Bonjour, je m'appelle Léa Le Carreau, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir si le drapeau de Neil Armstrong est toujours planté sur la Lune.
André Break, astronome, le sait-on seulement ?
Bien Léa, bonne question, ma réponse est oui. Le drapeau, il est planté pour très, 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 très longtemps.
Il s'use pas ?
Pourquoi ? Parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'érosion. Comme sur Terre. Et donc, si je plante un drapeau sur Terre, par exemple en Égypte, ben, je construis une pyramide. La pyramide, 40 ans plus tard, elle est toujours là. 4 siècles plus tard, elle est toujours là. 40 siècles plus tard, elle est toujours là. Mais un million d'années plus tard, elle n'est plus là. Elle revient à l'état de poussière. Alors que si je plante un objet, un drapeau sur la Lune, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui le détruit. Sauf peut-être le bombardement par des météorites. Donc il faudrait qu'une météorite frappe exactement à cet endroit-là. Au pire, ça ferait un petit trou dans le drapeau. Au pire, il serait couché, mais il sera là. Et si on retourne sur la Lune, on y retournera bien entendu. Dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, dans 10 000 ans, dans 1 million d'années, dans 10 millions d'années, il y aura toujours le drapeau de Neil Armstrong. Donc quand les voyages vers la Lune deviendront chose courante, probablement qu'on y mettra un musée et qu'on dira c'est là que la première fois les hommes ont mis le pied sur la Lune, voilà la trace de ce drapeau. Il est là pour très longtemps. Et Léa, si tu as la chance d'aller dans la Lune dans quelques années, moi je crains de ne pas pouvoir y aller, et ben tu verras le drapeau de Neil Armstrong, ne t'inquiète pas, il n'y a aucune raison qu'il soit détruit, parce qu'il n'est pas érodé tout simplement.
Les titres des livres d'André Braik sont bien entendu sur le site des Petits Bateaux, mais sachez qu'il est édité chez Odile Jacob.
Je me travaillais nu dans la ville, les gens pensaient que j'étais devenu fou. Il est devenu débile. On va la fermer un point, c'est tout. Mais pourquoi je m'entête à me souvenir de ses tresses? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses mains? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses fesses? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses seins? Fou ça oui pour fou, j'étais fou d'elle. Elle qui ne vivait avec rien. Qui faisait la terre entière sienne. Moi sans monde je n'y comprenais rien. Elle prenait tout le monde dans ses bras. Elle avait de l'affection à revendre. Et moi qui ne la comprenais pas, j'aurais presque fini par me pendre. Mais pourquoi je m'entête à me souvenir de ses lèvres? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses yeux? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses rêves? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses feux? Je me trimballais nu dans la ville. Les gens pensaient que j'étais devenu fou. La douleur m'en est si fébrile que j'ai pu m'effondrer devant vous. De penser à elle, je n'ai de cesse. Elle qui fait tout trembler en moi. Elle qui m'a rationné cette tendresse. J'en suis accro comme au chocolat. Mais pourquoi je m'entête à me souvenir de son rire? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses mots? Pourquoi je m'entête à m'enfermer dans mon délire? Pourquoi dans mon cœur n'obéit plus à mon cerveau? Je me trimballais nu dans la ville. Les gens pensaient que j'étais devenu fou. Il disait il est devenu débile. C'eût été plus simple, je l'avoue. Mais pourquoi je m'entête à me souvenir de ses tresses? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses mains? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses fesses? Pourquoi je m'entête à me souvenir de ses seins?
Nu dans la ville, c'était les Oufris Maracas.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le principe des petits bateaux, si vous ne le connaissiez déjà, vous l'avez compris, des enfants, même des grands d'ailleurs, posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 7 ans et demi. Je voudrais savoir qui a inventé notre alphabet. Merci, au revoir.
Bonsoir Clément, nous avons proposé ta question à Isabelle Cloque-Fontani, qui est professeure des sciences du langage à l'Université de Limoges et surtout spécialiste des langues et des écritures anciennes, particulièrement celles du Moyen-Orient. Peut-être qu'il y a un peu de Moyen-Orient dans cette histoire, je ne sais pas, dans la question de Clément, Isabelle Cloque-Fontani.
Oui, absolument. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'alphabet n'a pas été inventé par nous. Ça, c'est sûr. Notre alphabet se nomme, comme tu le sais, Clément, l'alphabet latin. Donc il nous vient des Latins, des Romains. Mais les Romains ne l'ont pas inventé. Ils l'ont emprunté aux Étrusques, qui était un peuple qui était installé en Italie. Mais les Étrusques l'ont eux-mêmes emprunté aux Grecs. D'ailleurs, ce sont les Grecs qui ont donné le nom alphabet, puisque alpha, c'est A, première lettre de l'alphabet, bêta, deuxième lettre de l'alphabet, donc alpha, bêta, ça va donner alphabet. Mais les Grecs ne sont pas les inventeurs de l'alphabet non plus. En fait, ce sont les Phéniciens, on arrive au Moyen-Orient, hein, c'est un peuple du Moyen-Orient, un peuple de marchands, qui est venu installer des comptoirs commerciaux sur les côtes grecques, hein, vers le 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils avaient une langue, mais ils avaient surtout une écriture, un alphabet. Et à cette époque, les Grecs n'en avaient pas. Ils ont donc emprunté cet alphabet aux Phéniciens. Même si les choses sont un petit peu plus compliquées que ce que je dis. Mais ils ne l'ont pas emprunté tel quel, j'y reviendrai. Alors les Phéniciens sont-ils, eux, les inventeurs de l'alphabet? Eh bien non.
Non plus.
Eh bien non plus. On peut remonter encore plus loin dans le temps. Au début du XXe siècle, on a découvert dans les monts du Sinaï, donc du côté de l'Égypte, des inscriptions dont on peut dire que ce sont les premières inscriptions alphabétiques. Elles datent de à peu près 1800 avant Jésus-Christ. Tout le monde n'est pas d'accord sur la date. Alors qu'est-ce qui se passait là-bas? Ben, les Égyptiens exploitaient des mines de turquoise et ils avaient des ouvriers. Et les ouvriers avaient gravé des inscriptions sur des petits objets, par exemple sur des sphinx. Et ces inscriptions, eh bien, elles étaient alphabétiques. Ce sont les premières inscriptions qu'on peut qualifier d'alphabétiques.
Donc ce n'était pas des dessins, c'était vraiment des lettres.
Ah oui, on reconnaît ce qui va donner un A, ce qui va donner un B. Alors il y avait des bouts d'inscription en égyptien, par exemple A Hathor, la dame de la déesse. Et en dessous, on avait par exemple pour Baalat, hein, qui était l'équivalent de Hathor. Et on voit bien ce qui va donner un T, ce qui va donner un B.
C'est-à-dire une lettre qui correspond à un son et non pas un dessin qui correspond à une idée.
Absolument, c'est tout à fait ça. Et pour le moment, on ne peut pas remonter plus loin.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Mais du coup, si la question c'est qui a inventé l'alphabet, pour le moment, ben ce sont ces ouvriers. Mais si la question c'est qui a inventé notre alphabet, alors on peut quand même dire que ce sont les Grecs. Parce que les Phéniciens parlaient une langue sémitique, c'est-à-dire de la même famille que l'arabe, et donc ne notaient que les consonnes. Or les Grecs avaient besoin de noter les voyelles et les consonnes. Il n'y avait pas de consonnes dans l'alphabet phénicien. Alors, comment ont-ils fait? Ils ont inventé des signes. Par exemple, ils avaient besoin d'un signe pour le O long. Ils ont inventé l'oméga, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Dans d'autres cas, ils ont pris des lettres qui ne leur servaient à rien. Par exemple, la première lettre, qui est l'aleph en phénicien, qui est un son que nous ne connaissons pas, ce qu'on appelle l'arrêt glottal. Et comme ils n'en avaient pas besoin, ils se sont dit, nous, on a besoin d'un A. Donc, ce signe, ça va être A. Donc on peut dire que ce sont les Grecs qui ont inventé l'alphabet, au sens où l'alphabet est un système avec les voyelles et les consonnes.
Voilà, Isabelle Cloque-Fontani est professeure de sciences du langage à l'Université de Limoges. J'ai plusieurs choses à vous dire. La première est la plus triste, vous avez entendu André Braïc tout à l'heure, parce que notre émission d'aujourd'hui est une rediffusion du dimanche 3 janvier 2016, depuis André Braïc nous a hélas quittés. Et une autre, beaucoup moins triste, notre répondeur a été fermé tout l'été, mais il réouvrira la semaine prochaine.
Je m'appelle Lola, j'ai 6 ans et j'aimerais savoir comment on fait les stalactites. Merci, au revoir.
C'est moi Lola. Comment on fait les stalactites, Lola? Nous avons proposé ta question à Jacques-Marie Bardanzev, volcanologue, professeur des universités de Paris Sud, Orsay et Cergy-Pontoise, et qui a écrit « Le volcan se réveille chez le pommier » pour les gens de ton âge. Les stalactites, je ne sais même pas si c'est celui qui monte ou qui descend, Jacques-Marie Bardanzev.
Ah, faut savoir justement. Alors en fait, il y a un moyen très simple pour se souvenir. Les stalactites, il y a un T,
oui.
Donc elles tombent. Ah, et les stalagmites ont un M, donc elles montent.
Bravo.
Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est l'eau qui travaille, et c'est l'eau qui construit les stalactites et les stalagmites. Pourquoi? Parce que l'eau de pluie, en fait, eh bien, elle contient un petit peu de gaz carbonique, très légèrement, mais donc elle est un petit peu acide. Alors, c'est pas mauvais pour la peau, hein, faut se rassurer, ouais. Mais c'est vrai que sur une roche, eh bien, notamment une roche calcaire, l'eau de pluie peut dissoudre un peu de calcaire. C'est pour ça qu'on a autour de nos robinets des taches de calcaire, d'ailleurs. Ah oui. C'est que c'est de l'eau qui avait du calcaire dissous et le calcaire s'est déposé autour de notre robinetterie, dans la salle de bain, etc. Alors, ça se fait dans la nature aussi. Alors, quand il y a des plateaux calcaires, par exemple, on peut prendre l'Écosse dans le sud de la France, le Vercors dans les Alpes, eh bien, si de l'eau de pluie tombe sur une dalle calcaire, l'eau ruisselle et en ruisselant, elle va enlever un peu de calcaire, un tout petit peu. Mais avec des millions de gouttes de pluie, ça va creuser un peu des rigoles petit à petit. Donc on retrouve dans ces régions-là des régions un peu cannelées, avec des rigoles qui peuvent faire plusieurs mètres de profondeur, séparées par des sommets, et ça ressemble à un troupeau de moutons un petit peu, vu de loin. On appelle ça des lapiaz ou des lapièzes. Donc c'est typique des plateaux calcaires. Alors cette eau qui s'infiltre dans cette fente, elle va continuer dessous à dissoudre le calcaire. Et avec les milliers d'années, eh bien en dessous, il va se creuser une grotte, de plus en plus grande, une caverne, par dissolution. Donc, les eaux de pluie emmènent un peu de calcaire et chaque eau de pluie emmène un petit fifrelin, un petit microscopique morceau de calcaire et petit à petit se creuse une grotte. Alors maintenant, suivons par la pensée le trajet d'une goutte de pluie. Cette goutte de pluie, elle tombe sur le calcaire au sommet du plateau. Elle se charge un petit peu en calcaire, elle en prend un tout petit peu. Elle ruisselle dans la fente, elle ruisselle sur le plafond de la grotte. Et là, elle laisse un peu de calcaire au plafond. Puis elle tombe, paf! Et en dessous, elle relaisse un peu de calcaire en face, en dessous. Puis elle continue à couler. Donc, au bout de millions de gouttes de pluie, ben, au plafond, va commencer à se former une stalactite qui tombe. Et en dessous, juste en face, une stalagmite qui monte. Et les deux vont l'une vers l'autre. Elles peuvent parfois, d'ailleurs, se rejoindre et former une colonne.
Mais le calcaire, il tient? Parce que qu'est-ce qu'il soude?
Eh bien, le calcaire, en fait, c'est un minéral qu'on appelle la calcite. Et les grains de calcite se soudent entre eux parce qu'ils sont un peu imbriqués l'un dans l'autre. Et comme toute roche, toutes les roches tiennent parce que les minéraux sont soudés les uns aux autres. Pas définitivement, hein. Les calcaires, ils peuvent se fracturer, ils peuvent se casser, ils peuvent s'user, mais c'est une roche plutôt solide. Alors, également, il faut savoir qu'une stalactite, souvent, c'est creux. Parce que la goutte, elle coule dans la stalactite. Et en fait, elle dépose au bout de la stalactite un petit peu de calcaire. Et parfois, il y a même des stalactites qui sont extrêmement fines et longues, qu'on appelle des macaronis. Parce qu'elles peuvent faire jusqu'à 2 mètres de long. Et elles sont fines comme des macaronis. Donc, c'est magnifique. Parce que ça fait des pluies de stalactites, parfois au-dessus d'un lac souterrain. Il y en a dans les grottes du Vercors. Bon, c'était plusieurs, mais notamment la grotte de Chorange, qui est magnifique. Et puis, au contraire, les stalagmites, elles sont plus grossières. Et puis, elles sont pleines. Elles ont pas de creux. Donc, on peut aussi les distinguer.
Grotte de Chorange, merci de nous avoir évoqué ces belles choses fabriquées par la nature, Jacques-Marie Pardanzef. Alors je m'en souviendrai, le stalactite tombe, le stalagmite monte. C'était Beck sur France Inter, vous avez la bonne idée d'écouter les petits bateaux. Dites-moi, quand vous mangez avec vos doigts, vous vous faites attraper, c'est normal. D'ailleurs, vous savez que quand vous avez mangé avec vos doigts, pour nettoyer ses doigts, évidemment, on les lèche. Et si ça ne suffit pas, on les essuie sur son pantalon, soit. Mais jamais devant, sur les cuisses, toujours derrière les genoux, là où ça ne se voit pas.
Je m'appelle Aude, j'ai 10 ans et je voudrais savoir
quand et comment on a créé le couteau, la fourchette et la cuillère. Au revoir, maman, les petits bateaux, et merci.
Bonsoir, Aude, merci à toi pour cette question. Didier Le Fur, vous avez écrit « La France de la Renaissance » chez Talendier.
Le couteau et la cuillère sont des ustensiles qui ont apparu très tôt. Le couteau, tout simplement parce que c'était une arme, ça servait à tout. Dès l'époque du bronze, hein, grosso modo, le couteau existe. La cuillère aussi. Mais la cuillère était utilisée, pour l'époque antique essentiellement, exceptionnellement. En France, en Europe, on avait perdu un petit peu toutes ces traditions-là. Et pendant longtemps, on a mangé avec ses doigts. Et le couteau ne servant à table uniquement que pour piquer dans le plat, oui. Puisque le plat était commun, il n'y avait pas d'assiette. On prenait dans un plat principal avec le couteau, voire même avec ses doigts. Et le couteau servant à couper un morceau de viande ou carrément... c'était même pas toujours utile. Hein. Et la cuillère, elle, par contre, était elle aussi exceptionnelle et servait uniquement qu'à prendre les sauces pour les mettre sur le mets. Début du XVIe siècle, certaines personnes trouvaient que c'était pas très très hygiénique parce que les doigts n'avaient pas forcément été lavés, qu'ils avaient traîné partout dans la journée. On a imaginé qu'une fourchette pouvait exister. Alors la fourchette, au départ, elle a été inventée à Venise. Elle est exclusivement réservée à la noblesse ou en tout cas à la haute société. Et elle est faite de deux piques et avec un long manche. Mais on la mettait pas à la bouche encore. Elle servait uniquement à prendre le mets et c'était avec les doigts qu'on mettait le mets à la bouche puisque seuls les doigts pouvaient atteindre la bouche. Cette nouveauté vénitienne va se répandre peu à peu. Alors la légende veut qu'en France, elle a été instaurée par Henri III en 1574, juste après son voyage à Venise. En fin de compte, elle était connue bien avant, puisque certaines personnes, notamment à la cour de France la première, l'utilisaient, ou à la cour d'Espagne aussi, puisque Charles Quint, dans les années 1530-1540, en avait une aussi. Cette fourchette, finalement, qu'on va peu à peu utiliser, un, pour piquer, et deux, après, pour mettre à la bouche, était considérée par beaucoup comme un objet extrêmement précieux, presque trop efféminé, en tout cas pour les hommes. Et donc, une quantité de gens l'ont refusé. Et en plus, avec tout l'imaginaire qui tournait autour d'Henri III, avec tous ces mignons, toute cette préciosité qui pouvait exister, eh bien, du coup, il y avait une sorte de rejet aussi de tous les opposants d'Henri III et de toute son image qui en profitait justement pour dire que même cet ustensile-là était l'expression même d'une dégénérescence, en fait. Et cette fourchette, finalement, va quand même se développer au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, mais elle n'aura vraiment une popularité qu'au XVIIIe, lorsqu'elle va atteindre les tables de la bourgeoisie. Par rapport à cela, la cuillère, elle, qui n'était pratiquement pas utilisée jusqu'à la fin du XVe siècle, va être l'instrument principal des paysans. Et donc les paysans, outre le fait qu'ils boiront souvent et longtemps leur soupe directement au bol, eh bien, vont utiliser après leur cuillère, cette cuillère pour manger les plats un peu plus consistants. Et c'est au 19e que cette fourchette va se répandre davantage dans la paysannerie. Alors, il y a une petite chose amusante aussi, c'est que le couteau qui a eu longtemps une lame pointue, à partir du moment où il est arrivé sur la table près de l'assiette avec la fourchette, eh bien, le bout pointu, puisqu'il était inutile maintenant pour piquer dans un plat, est devenu rond.
Merci à l'historien Didier Le Fur. Alors Eliane Girard, Marjorie de Voucou, Julien Dumont et Noël Bréham, nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne année. Vous pouvez venir retrouver Les Petits Bateaux en allant sur notre site. Vous pouvez également retrouver Les Petits Bateaux dans le livre chez Pocket, c'est un livre de poche qui s'appelle Les Petits Bateaux. Sinon, nous vous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Et d'ici là, je vous laisse avec Denis pour la Tulu, mon petit loup.